France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Les bourses asiatiques ont encore dévissé ce matin sur fond de crainte de crise économique mondiale en cause la guerre des droits de douane déclenchée par Donald Trump. Nous serons à Tokyo, on se rendra également au Caire où le président Emmanuel Macron a entamé une série d'entretiens pour soutenir le plan arabe de reconstruction pour Gaza. On reviendra par ailleurs sur la visite hier à Alger du ministre français des Affaires étrangères après plusieurs séquences politiques. Scabreuse, la diplomatie est-elle en train de reprendre la main? On posera la question à notre invité Michel Duclos, diplomate, ex-ambassadeur, expert en géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Enfin, l'actualité en France, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui du premier procès au civil contre le médicament Androcur commercialisé par le laboratoire Bayer Monsanto. Mais pour commencer, un témoignage rare en Birmanie, plus d'une semaine après le puissant séisme qui a frappé le pays. Les fortes intempéries du week-end ont encore ajouté au calvaire de la population, dont la résilience le dispute chaque jour aux vies brisées, aux maisons pulvérisées, aux moyens de subsistance ruinés. Quant à un grand nombre d'habitants, sont à présent forcés de dormir dehors, soit parce qu'ils n'ont plus de logement, soit par crainte que celui-ci ne s'effondre. Les travailleurs humanitaires sur place alertent, eux, sur les risques de propagation de maladies du fait de la chaleur écrasante. Le dernier bilan fourni par les autorités militaires fait état de 3471 morts et 4671 blessés. Carole Izou a réussi à se rendre à Mandalay, la deuxième ville du pays située près de l'épicentre. Reportage.
Une colline de débris, c'est tout ce qui reste du Sky Villa Condominium, l'un des plus hauts immeubles de Mandalay, symbole de la modernisation de la ville. Toute la journée, sous un soleil de plomb, les secouristes birmans déblaient. Il ne s'agit plus désormais de retrouver des survivants, mais de récupérer le plus de corps possible avant l'arrêt des recherches. Tout autour, les familles anxieuses attendent.
Ma sœur était en train de nager dans la piscine quand le tremblement de terre est arrivé. Il n'y a rien à expliquer, j'ai perdu ma sœur. Aujourd'hui, ils ont sorti 7 corps. À chaque fois, on y croit, mais ce n'est jamais elle. On va devoir vivre sans avoir récupéré son corps, avec le doute. C'est dur pour la famille.
Mandalay reste debout malgré les dégâts. Aux portes de la ville, plus de 10 000 sans-abri campent sur le bord de la route. L'aide humanitaire reste quasi inexistante. Dans les zones plus reculées, les populations qui payent le double prix de la guerre civile et du tremblement de terre n'ont toujours reçu aucune aide.
Un reportage à Mandalay signé Carole Izou. À l'unisson de la panique qui la semaine dernière déjà s'est emparée des marchés aussitôt après l'annonce par le président Donald Trump de nouveaux droits de douane agressifs, les secousses de ce séisme économique continuent ce matin encore à faire trembler toutes les places financières. La chute la plus vertigineuse a été enregistrée à la bourse de Hong Kong en baisse de 13,22%, un plus bas historique depuis 1997. Autre record à Taïwan, moins 9,7%. Enfin au Japon, le plongeon frôle les 8%, les précisions depuis Tokyo de Karine Nishimura.
Les courtiers japonais emploient l'expression de quasi-panique pour qualifier le comportement des investisseurs à la bourse de Tokyo et ailleurs. En abandonnant 2644 points, l'indice Nikkei des 225 principales entreprises cotées à Tokyo a enregistré en points sa troisième pire chute historique. Toyota a lâché près de 6% et des entreprises de semi-conducteurs ont perdu autour de 10%. Les Japonais ont une aversion pour le risque en général et pour le risque financier en particulier. Or, ils craignent une véritable guerre commerciale économiquement dévastatrice, une surenchère de droits de douane entre les États-Unis et la Chine qui réplique. Même si le gouvernement japonais est décidé à donner des gages à Donald Trump pour négocier une réduction ou un abandon des droits de douane sur les produits exportés du Japon, cela ne mettrait pas à l'abri les entreprises nippones qui expédient aussi des marchandises depuis d'autres pays asiatiques, cible du président Trump.
Alors face à cette offensive protectionniste sans précédent dans l'histoire récente des États-Unis, mais aussi au regard de l'inflexibilité de l'administration américaine sourde à toutes les prédictions les plus pessimistes des économistes, tout porte à croire que cette semaine devrait donc s'ouvrir sur une nouvelle journée noire à Wall Street comme sur les places européennes déjà à l'ouverture. Francfort perdait plus de 7%, un peu moins à Paris. Alors jusqu'à quel point faut-il s'inquiéter ou non de cette nouvelle plongée des bourses? Catherine Pétillon a posé la question à Sylvain Birsinger, chef économiste au cabinet Asterès.
Ce qui se passe, c'est que quand Donald Trump, la semaine dernière, a annoncé tous ses droits de douane, beaucoup d'investisseurs, d'analystes, espéraient que ce soit un peu du bluff et qu'il allait en réalité en retirer une bonne partie. Un peu comme il l'avait fait sur le Mexique et le Canada, où il avait annoncé des droits de douane très élevés et généralisés, et puis en fait, il avait très largement fait machine arrière. Et donc, l'espoir, je pense, qu'avait beaucoup d'analystes et d'investisseurs, c'est de se dire, Trump bluffe, il essaie de jeter un pavé dans la mare, mais en fait, il n'ira pas au bout de son propos, il n'ira pas au bout de sa guerre commerciale. Et ses déclarations du week-end ont un peu douché ses espoirs, puisque Trump a annoncé que ses droits de douane allaient bien être maintenus, allaient bien rentrer en place. Alors, avec Trump, on ne sait jamais trop, parce qu'il est comme assez versatile. Mais je crois que là, les investisseurs ont pris conscience que Donald Trump veut vraiment cette guerre commerciale et qu'il va aller jusqu'au bout de cette guerre commerciale, alors que jusqu'à présent, on avait l'espoir que ce soit avant tout du bluff. Alors, la baisse des bourses à ce stade n'a d'impact que pour le patrimoine des gens qui détiennent des actions, c'est-à-dire en France, dans le fond, pas grand monde en termes de personnes privées. Mais je dirais que la chute des bourses en tant que telle n'est pas tant le problème. La chute des bourses est plutôt la conséquence de la guerre commerciale qui, elle, va faire baisser le commerce international et là peut avoir des impacts négatifs sur principalement les secteurs qui exportent vers les États-Unis.
Sylvain Birsinger, chef économiste au cabinet Asterès, il répondait à Catherine Pétillon.
Et l'impact économique de la guerre commerciale décidée par le locataire de la Maison Blanche soulève désormais des doutes jusque dans les rangs de son propre parti.
C'est ainsi par exemple que le sénateur Ted Cruz, candidat à la primaire républicaine de 2016, a exprimé, je cite, sa crainte d'un bain de sang électoral aux prochaines élections de mi-mandat en cas de récession. Dans le même temps, l'autre Amérique a fait son retour dans la rue ce week-end. Les opposants à Donald Trump jusqu'ici étonnamment silencieux depuis la réélection du milliardaire, se sont livrés à leur première démonstration de force en défilant par milliers dans plusieurs centaines de villes à travers les États-Unis. Alors dans le fracas des événements, on ne compte plus les points de fracture qui nous font basculer aujourd'hui dans un nouvel ordre mondial. On parlait à l'instant de l'augmentation des droits de douane, mais comment ne pas citer l'offensive israélienne à Gaza? Les deux sujets seront d'ailleurs au menu des entretiens prévus aujourd'hui avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de retour à la Maison Blanche.
Autre rencontre diplomatique au sommet, Emmanuel Macron est lui arrivé au Caire.
Face aux ambitions contestées de Donald Trump et la reprise des opérations militaires par Israël après 2 mois de trêve, le président français veut marquer sa mobilisation en faveur d'un cessez-le-feu pour l'enclave palestinienne. Emmanuel Macron a été reçu ce matin par son homologue égyptien. Ils doivent être rejoints à la mi-journée par le roi Abdallah II de Jordanie pour un sommet à 3. Avec quel objectif? Élément de réponse de notre envoyé spécial au Caire, Louise Baudet.
Les trois dirigeants vont se retrouver vers 13h derrière les hauts murs néo-mauresques du palais présidentiel égyptien Ittihadiyya, où Abdel Fattah al-Sissi a accueilli ce matin Emmanuel Macron avec la pompe qui sied à une visite d'État, coup de canon, revue des troupes et chaleureuse accolade. Au cœur des discussions, Gaza, où plus rien n'entre depuis plus d'un mois, ni eau, ni vivres, ni médicaments. La France et la Jordanie vont-elles procéder à de nouveaux largages? C'est en discussion, mais cela ne suffira pas, prévient l'Élysée. Des points de passage doivent impérativement rouvrir. Emmanuel Macron le redira demain à Al Arish, à 50 km de l'enclave, port égyptien servant de base arrière pour l'aide humanitaire destinée aux Gazaouis. Il y réclamera la levée du blocus et le retour au cessez-le-feu rompu le 18 mars. Outre l'urgence humanitaire, le plan de reconstruction de Gaza, porté par la Ligue arabe, est sur la table. 53 milliards sur 5 ans pour reconstruire des logements, des réseaux, des hôpitaux. Plan soutenu par la France, mais il doit prévoir le désarmement du Hamas. Et l'autorité palestinienne censée gouverner l'enclave après 6 mois de transition doit se réformer pour convaincre Washington qu'il y a là une solution concrète alors qu'Israël n'a pas de plan pour le jour d'après. Convaincre Washington, vaste programme, alors que Donald Trump ne démord pas de son projet de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient, promesse d'un paradis vidé de ses 2 200 000 habitants.
Et j'ajoute que le président Emmanuel Macron vient de déclarer que le groupe islamiste Hamas ne devra plus jouer de rôle dans la future gouvernance de la bande de Gaza. Renouer le dialogue après des mois de disputes, l'heure est venue de tourner la page des tensions actuelles, a déclaré hier le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à l'issue d'une longue rencontre à Alger avec le président Abdelmajid Tebboune. De quoi marquer un apaisement? Pour autant, si le ton a changé, faut-il parler de réconciliation? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Michel Duclos, diplomate, ancien ambassadeur, expert en géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que la brouille diplomatique entre Paris et Alger est réellement terminée? Jean-Noël Barrot évoque le début d'une nouvelle phase des relations bilatérales. Jusqu'à quel point faut-il y croire?
Alors, c'est difficile de croire qu'on va entrer dans une période idyllique sans problème. Pour deux raisons. C'est parce que la première raison, c'est que depuis longtemps, depuis l'indépendance, en fait, la relation franco-algérienne connaît une série de cycles avec des moments de beau temps et des moments de crise. Sous la présidence de M. Macron, nous en sommes déjà à la troisième crise. Puis la deuxième raison, c'est que je ne dirais pas que c'est une réconciliation superficielle, il ne faut pas dire ça, mais c'est une réconciliation qui porte sur la méthode. On s'est mis d'accord pour traiter les problèmes, il reste ces problèmes à les approfondir et à trouver des solutions.
Ça veut dire que la diplomatie a malgré tout repris ses droits, là où peut-être les derniers mois avaient été guidés par des considérations, disons, plus politiques?
En tous les cas, par des calculs de politique intérieure. C'est probable du côté algérien, c'est ce qui avait conduit M. Macron à utiliser des formules qui ont naturellement beaucoup choqué les Algériens. Il avait parlé de rente mémorielle, et donc... Effectivement, dans les considérations internes à Alger, taper sur la France de temps en temps, ça fait partie effectivement des moyens pour le régime de d'acquérir une sorte de légitimité. Et du côté français, chacun sait les positions qu'avait prises le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. On ne peut pas exclure quand même qu'il y a un lien entre la dureté qu'il a utilisé pour condamner l'Algérie et la hausse progressive de son taux de popularité, naturellement. Donc oui, de part et d'autre, c'est inévitable dans des pays aussi proches, ces calculs-là comptent.
Il serait presque plus payant politiquement, finalement, auprès d'une partie de la population de chercher à montrer les muscles d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, vous évoquiez Bruno Retailleau. C'est vrai qu'il avait assez largement participé lui-même à la montée des tensions donc entre Paris et Alger en prenant publiquement le rapport de force. Diriez-vous que le retour hier à la discussion donc bilatérale, c'est une forme de désaveu pour Bruno Retailleau, mais au-delà tous les tenants d'une ligne dure avec l'Algérie?
On peut pas dire ça parce que on peut dire que s'il n'y avait pas eu cette attitude du ministre de l'Intérieur, on n'aurait pas pu vraiment rétablir des relations, sinon apaisées, au moins à peu près normales. Donc c'est ce que c'est bad cop, good cop. C'est une interprétation possible. Je dois dire quand même que malgré tout, c'est un jeu qu'il ne faut pas jouer trop souvent, parce que c'est pas comme ça qu'on fait progresser les dossiers sur le fond. Et en réalité, là, on a été quand même assez proche d'une vraie rupture, je crois, avec l'Algérie. Et je dois dire que le président et son ministre des Affaires étrangères ont fait preuve d'une assez grande habileté pour renouer.
S'agissant des dossiers sur le fond, justement, si l'on remonte aux origines de cette dernière période de tension, c'était l'été dernier, Emmanuel Macron avait choisi à l'époque de soutenir un plan d'autonomie, de sous-souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, au détriment des indépendantistes du Front Polisario, soutenu par Alger. Cette décision avait été interprétée comme le choix résolu de privilégier la relation française avec le Maroc, au détriment donc de celle avec l'Algérie. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, selon vous, qu'Alger accepte de reprendre les discussions?
Alors, effectivement, c'est le point de départ de la brouille actuelle. Mais, si vous voulez, on a eu des prédécesseurs dans ce schéma, les États-Unis, l'Espagne. Les États-Unis sont un peu hors catégorie, parce qu'évidemment, les Algériens ne vont pas se fâcher avec les Américains. Mais avec l'Espagne, ils avaient aussi marqué le coup pendant 6 mois. Et au fond, on pouvait s'attendre à ce que ce soit la même chose pour la France. Ce qui a fait que la crise a eu plus d'ampleur, c'est d'abord parce que les relations franco-algériennes sont quand même beaucoup plus sensibles que les relations entre l'Espagne et l'Algérie, bien sûr. C'est aussi l'éclat qu'a mis le président de la République quand il s'est rendu au Maroc avec une délégation de 150 personnes. Ensuite, le fait que des ministres importants, comme même Dati, aillent ostensiblement au Sahara, on en a rajouté beaucoup. Et donc, c'était très difficile pour les Algériens de ne pas aller plus loin que simplement marquer le coup. Et c'est un peu ce cycle-là qu'on a connu, avec aussi de notre côté les griefs qui sont arrivés, avec l'emprisonnement de Boualem Sansal, l'attentat de Mulhouse, où c'est quand même un Algérien qui a fait souvent l'objet d'obligations de quitter le territoire et que les Algériens n'avaient jamais repris, qui s'est révélé coupable. Donc le contentieux est devenu chargé des deux côtés, si je puis dire.
Une dernière question s'agissant justement de Boualem Sansal. Est-ce que le sort de l'écrivain franco-algérien pourrait nuire, selon vous, au rapprochement actuel?
Je ne sais pas. Là, c'est une question difficile. Ça dépend de nous, naturellement. Mais pour les Algériens, est-ce qu'ils comprennent que pour les Français, depuis Voltaire, depuis en tous les cas que De Gaulle a prononcé cette phrase célèbre à propos de Sartre, on n'en bastionne pas Voltaire en France. Et donc, il y a en France, c'est vrai, une sensibilité particulière au sort des écrivains. Est-ce que les Algériens le comprennent? Est-ce qu'ils veulent en faire un atout pour avoir sur nous un moyen de pression? Ou est-ce qu'au contraire, dans un climat d'emplaisement, ils comprendront que c'est le geste évident à faire vis-à-vis des Français?
Voilà, la question reste posée. Merci Michel Duclos, diplomate, ancien ambassadeur et expert en géopolitique, je le rappelle, à l'Institut Montaigne d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Le tout premier procès contre le médicament Androcure, commercialisé par le laboratoire Bayer Monsanto, s'ouvre aujourd'hui à Poitiers.
Au total, 3 laboratoires, un médecin et un pharmacien, vont comparaître pour ce procès au civil attendu par des milliers de femmes qui se disent victime de ce médicament censé pallier des dérèglements hormonaux. C'est le cas en particulier de Véronique Dujardin. Pendant 10 ans, elle a consommé cette pilule blanche qu'elle tient désormais pour responsable de ses tumeurs au cerveau. Et elle n'est pas la seule, puisqu'elles sont 450 à avoir développé une maladie après avoir consommé ce médicament. Le lien de corrélation entre la prise d'Androcure et l'apparition de méningiome a d'ailleurs été confirmé en 2018 par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pour autant, ce médicament, certes moins prescrit, est toujours sur le marché et de très nombreuses femmes se font encore opérer aujourd'hui de ces tumeurs donc provoquées par l'Androcure, comme nous l'explique Johan Palu, néo-chirurgien et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
On a, depuis les alertes, beaucoup, beaucoup moins de prescription de ce médicament-là. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit toujours arriver toutes ces patientes qui ont été exposées pendant 10-15 ans. Donc on a toujours un afflux considérable de patients qui sont en fait le stock des patientes des années passées, hein, donc qui commencent à payer le risque maintenant de leur prise sur les 15 années passées. Donc la quantité de patientes ayant une problématique de méningiome liée aux hormones est toujours en train de grandir. Par contre, la quantité de patientes nouvellement exposées à ce médicament hormonal est en train de diminuer grâce aux meilleures restrictions de prescription. Ce qui fait que si tout va bien, dans quelques années, on va avoir une diminution du nombre de patientes concernées. Mais aujourd'hui, les patientes que je vois, si je vois demain une patiente en consultation avec un méningiome lié aux hormones, elle aura pris ce médicament depuis 10 ans. Elle ne l'a pas pris depuis la semaine dernière. Donc en fait, on paye encore les expositions passées.
Voilà, Johan Palu, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, il répondait à Marie Coupleutre.
Décriée par les Républicains, mais aussi la majorité des socialistes, la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée.
La proposition de loi avait été largement adoptée la semaine dernière en commission, théâtre de vifs débats, chaque camp accusant l'autre de privilégier ses intérêts électoraux. Et si le texte devrait être voté cette fois-ci grâce au soutien du RN et de LFI, en revanche, son adoption semble nettement nettement plus improbable au Sénat. Enfin, de l'Elbe à l'Ebre, les grands fleuves européens sont aujourd'hui envahis par les microplastiques, une concentration massive alarmante et potentiellement dangereuse pour la santé, parfois visible même à l'œil nu. Certains flottent quand d'autres s'enfoncent dans le lit des cours d'eau. C'est ce que révèlent 14 études publiées simultanément ce matin. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique se déverse dans nos océans. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur la majeure partie du pays, légèrement couvert sur les Pyrénées et autour de la Méditerranée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.